Au lieu de l'histoire, en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est Alby-sur-Chéran, dit la cité des maîtres cordonniers. Il n'est pas toujours facile, dit-on, de trouver chaussure à son pied. Dans un passé récent, en Haute-Savoie, les habitants d'Alby-sur-Chéran n'ont pas eu à braver ce genre de difficultés. Véritable Eldorado pour ceux qui découvrent des paillettes d'or parmi les sables et graviers de ses berges, le Chéran prend sa source dans le massif des Bauges, fourni dès le Moyen-Âge son eau claire et pure aux tanneurs d'Alby, village posé sur la rive gauche au bord d'un étroit défilé. Dans les environs, on s'adonne à l'élevage des bovins, qui donnent le lait, la viande pour la consommation humaine, et aussi des peaux transformées en cuir avec le tan des chênes, nombreux dans ce secteur. Alby voit ainsi établir son premier cordonnier. Qualification faisant, référence à la ville espagnole de Cordoue, réputée pour son cuir, le métier ne date pas d'hier. Au IIIe siècle, venus de Rome, deux frères chrétiens, Crépin et Crépinien, s'installent à Soissons, en Gaule, où ils mettent à fabriquer des chaussures pour les indigents qui ne font pas payer et pour des personnes fortunées qui apprécient leur travail. Dénoncés, ils refusent jusqu'au bout, face aux Romains, d'abjurer leur foi et après d'atroces supplices, ils sont décapités sur ordre de l'empereur Maximien. Bien des siècles plus tard, dans la campagne savoyarde, tout le monde, ou presque, porte des sabots que certains paysans locaux fabriquent eux-mêmes. Tandis que, au beau jour, la plupart des gamins vont pieds nus. Les cordonniers d'Alby produisent à la demande des galoches, autrement dit des souliers de cuir à semelles de bois, qui protègent de l'humidité et du froid. Leur réussite fait des émules, qui enseignent à leurs garçons les ficelles du métier. À la belle saison, quand les portes des ateliers restent ouvertes, la rue centrale, pavée de galets, résonne des coups de marteau, frappant la pointe sans tête des clous. Ces derniers n'ont pas à effectuer un bien long voyage avant d'attacher semelles, empeignes, talons, pour ensuite être retirés à mesure que les coutures se font au moyen d'une haleine, d'une aiguille à fil de poissé, dans le massif des Bauges, tout proche d'une industrie du fer et clou, se développe à partir du XVIIe siècle en bordure du Chéran. Activité d'appoint alimentée par le minerai de Maurienne et le charbon de bois des forêts environnantes. Le fer est transformé en baguette à l'usage des cloutiers. Celle du Noyer et de Saint-François fabrique des caboches, clous à grosse tête pour ferrer les souliers, les galoches. Rougi à blanc, travaillé avec pince et marteau, par des mains habiles, chaque verge est convertie en une bonne douzaine de clous. À l'aide d'un compas de bois, le cordonnier à genoux à terre prend la mesure du pied du client ou de la cliente qui lui rend visite à son atelier où flotte l'odeur du cuir et de la poix. Tablier descendant jusqu'à mi-jambe, attaché par derrière, il réalise une forme, c'est-à-dire un modèle de bois, qu'il recouvre de cuir découpé avec un tranché. Plusieurs épaisseurs de cuir composent la semelle de ce qui deviendra une paire de gros souliers faits pour durer longtemps ou de solides bottes pour les hommes, de bottines à boucles ou à boutons pour une dame, soutés par un statut, une identité, une même vision de leur intérêt, maître cordonnier, ouvrier, apprenti fabrique plus qu'il ne répare. C'est la noblesse du métier où l'esprit de corps tient une place essentielle. La camaraderie de l'atelier n'est pas un vain mot. Lorsqu'en 1846, un incendie ravage une partie de la bourgade et dévore des dizaines d'habitations, toutes des savetiers, et retroussent leurs manches pour repartir, si l'on ose dire, d'un bon pied. Tant et si bien que sous les arcades de pierre, la vie reprend rapidement son cours et dans les échoppes où la mécanisation montre le bout de son nez. À la suite de la réunion de la Savoie à la France, Albi devient Albi-sur-Chéran pour éviter toute confusion avec la préfecture du Tarn. 10 ans plus tard, la guerre franco-prussienne éclate. La garde nationale, près de 600 000 hommes, est bien sûr mobilisée. Entre novembre 1870 et mars 1871, les cordonniers d'Albi, une bonne centaine à l'époque, lui fournissent plus de 6 000 paires de bottes et de brodequins. L'année suivante, de passage dans le coin, le baron Achille Ravera, membre de la société Florimontaine d'Annecy, évoque en ces termes les pays des cordonniers. Là, abrités contre le soleil et la pluie, ces estimables disciples de Saint-Crépin tirent bravement le lignol et battent la semelle en chantonnant une vieille chanson du pays. Là aussi, les ménagères du quartier viennent filer leurs quenouilles, faire tourner leurs rouets et, ajoutons, bavarder à qui mieux mieux. La qualité des fabrications s'améliore. Les conditions de travail aussi, grâce à la machine à coudre à bras libre qui permet de tourner dans tous les sens le soulier. Avec sa manivelle en bois, la machine à parer amincit les bords d'une pièce de cuir. Celle à cylindre la comprime sur toute la surface. Chaussures, bottes et bottines présentent les meilleures finitions et se vendent sans difficulté. Les cordonniers travaillent en famille. Le dimanche, levés avant l'aube, ils s'en vont à pied, deux par deux, vers les marchés ou les foires d'Annecy, d'Aix-les-Bains, de Remilly, de Seyssel, portant sur leurs épaules droites un bâton ou des paires de chaussures neuves suspendues par des lacets se balancent. Excellent marcheur lui aussi, le facteur rural a besoin de bons croquenots cloutés, lui qui effectue par tous les temps, sur des chemins pierreux, la boue, la neige, sa tournée de 20 à 30 kilomètres. À la fin du 19e siècle, le cordonnier d'Albi chausse les facteurs de Savoie et de Haute-Savoie. Ils fournissent également des hospices civils d'Annecy qui leur passent commande de souliers destinés aux garçons et aux filles de l'assistance publique. Pour faire face à la demande, les cordonniers s'approvisionnent en cuir auprès des tanneries situées dans les départements limitrophes. Estimés travailleurs, ils se retrouvent chaque année à la fin du mois d'octobre pour fêter le patron Saint-Crépin. Après la messe chantée, un joyeux banquet rassemble les corporations. Puis tandis que le village s'engourdit peu à peu sous un manteau blanc, il est temps de se pencher sur le livre des comptes, d'ajuster ses lunettes et un crayon à la main, de se mettre à calculer. Pour se faire payer, le cordonnier attend la Saint-Sylvestre. Après la Grande Guerre qui saigne la campagne française, l'activité est à son déclin. En 1918, Albi-sur-Chéran ne compte plus qu'une vingtaine de maîtres cordonniers. Formés par son père, le dernier d'entre eux ferme la porte de l'atelier en 1970. Pour ne pas oublier ce riche passé artisanal, un musée voit le jour 10 ans plus tard. Au cœur du vieux village, tout en arcades et en pierre, il fait l'objet d'une restauration en 2015. Sa visite, fort intéressante, est gratuite de juin à septembre. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.